un historien, Patrick Langer, et un photographe, Franck Roset, tous deux vivant en Provence, se sont passionnés pour l'olivier, cet arbre voyageur dans le temps et dans l'espace, un olivier pluriel, tant par ses nombreuses variétés que par les méthodes culturales employées. Un olivier généreux, qui, compris et soigné par les hommes, le leur a bien rendu avec le don annuel de ses fruits. C'est à la découverte actualisée d'un exceptionnel patrimoine naturel que ce livre, L'Olivier, vous invite aux éditions Edisud. Retrouvons Patrick Langer au micro de Jean Tonelli.
Oui, je suis historienne de formation en effet, et si vous me permettez l'expression, j'ai beaucoup bourlingué en Méditerranée, donc j'ai pu étudier l'évolution de cet arbre, les évolutions culturelles, les évolutions climatiques, les évolutions régionales, en travaillant à la fois à travers l'espace et le temps, donc ça m'a permis de faire une synthèse grand public et renouvelée par rapport à d'autres journalistes et écrivains qui avaient déjà travaillé sur pareil sujet, qui est l'olivier.
C'est vrai que votre livre pour ça est très original, en effet il m'a beaucoup plu, par rapport à cette approche historique de l'arbre, c'est-à-dire qu'en fait, vous nous dites que l'arbre, pendant très longtemps, on a cru qu'il venait d'Asie mineure, et ce n'est pas tout à fait ça.
Voilà, et là je m'appuie sur mes collègues de l'INRA qui ont beaucoup travaillé aussi en Méditerranée et qui nous montrent que contrairement à ce qui avait été dit et redit, écrit et imprimé, eh bien notre olivier n'est pas natif d'un Proche-Orient ou d'un Moyen-Orient, mais on a découvert une sorte de berceau en Afrique de l'Est et à partir de là, un peu comme l'homme, si vous permettez, il est remonté, deux branches se sont séparées, entre guillemets, deux branches. L'une est allée vers l'est, et donc a donné des peuplements d'oléastres, ce sont des oliviers sauvages, et l'autre a remonté en direction de l'Afrique, l'Afrique du Nord, et ensuite on peut imaginer donc que cet arbre a contourné, la Méditerranée a été en Espagne. Et a été en France, qui ne s'appelait pas naturellement France et Espagne à cette époque-là, parce que ça nous ramène très très longtemps en arrière, du côté du Miocène, après les dernières glaciations.
D'accord. Alors, quand pensez-vous que l'homme a commencé à imaginer pouvoir utiliser les fruits de cet arbre? Parce que ce qu'il y a de bien avec l'olivier, c'est que quand on cueille les olives, contrairement aux cerises, personne n'en mange.
Voilà. Donc, on peut imaginer que finalement, l'homme préhistorique a découvert les fruits de l'oléastre, l'olivier sauvage. Il a essayé de les goûter, mais il y a un principe amer dedans qui empêche sa dégustation, tel un autre fruit. Il y a très peu de sucre, beaucoup d'huile. Et donc, il a rejeté, mais il s'est dit, il a vu quand même qu'il pouvait en tirer quelque chose. Et c'est progressivement, on peut imaginer durant cette préhistoire, donc, qu'il y a des expériences culturelles empiriques qui fournissent des compléments alimentaires. On en a trouvé trace, en effet, du côté d'Israël. On a trouvé des noyaux en nombre, donc, qui permettent de penser que finalement, l'olive
était récoltée,
était ingérée par l'homme.
Oui, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, ce fruit qui, comme vous le disiez, a une amertume certaine, a quand même pu intéresser l'homme et qu'on est arrivé à en faire un arbre de santé très important, puisque maintenant l'olivier a ses lettres de noblesse en termes diététiques.
En effet, lorsque je vous parle finalement d'une domestication de l'arbre, ça nous ramène à 3500 avant notre ère.
Oui.
Et maintenant, nous sommes en 2008. Donc, cet arbre donc a été progressivement acclimaté. On a compris qu'il n'était pas originaire de notre Méditerranée, mais là, il va trouver un climat qui lui convient. Et l'intelligence de l'homme, le besoin de l'homme, le besoin naturel de survivre, allait permettre finalement une éducation de cet arbre. On allait le tailler, on allait le greffer, on allait faire apparaître de nouvelles variétés, on ne parle pas d'espèce. Là, l'espèce, c'est l'olivier.
Oui.
Là, donc, des variétés d'oliviers. Et puis, aussi bien en Algérie, d'où je reviens, qu'en Grèce, qu'en France, l'homme allait apporter chaque fois les civilisations différentes, des compréhensions différentes pour arriver maintenant à cet arbre qui est devenu le symbole de notre Méditerranée.
Oui. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de l'INRA. Je crois qu'il y a un chercheur de l'INRA qui est en train de faire toute une recherche sur les différentes variétés d'oliviers par la génétique. Et il s'aperçoit qu'il y a des arbres qui se ressemblent assez peu suivant les terroirs et qui ont le même patrimoine génétique et d'autres qui se ressemblent un peu et qui n'ont pas le même patrimoine génétique. C'est assez intéressant comme recherche.
Pour moi, je vais peut-être vous faire sourire, mais l'olivier, c'est un arbre voyageur. C'est pas lui qui se déplace, c'est les oiseaux qui l'ont fait voyager en ingérant donc des olives. C'est l'homme qui l'a fait voyager au niveau de ses rencontres des cultures, aussi bien dans ses bagages que dans ses vaisseaux, que dans ses navires marchands. Et finalement, à chaque fois, c'est implanté dans un terroir. C'est la connaissance, la comparaison qui a permis de choisir la meilleure variété qui allait convenir à des conditions édaphiques et climatiques, je m'explique, avec les sols et le climat, la température, l'exposition.
Oui, et d'ailleurs, si on avait une connaissance de l'huile d'olive un peu supérieure à la plupart d'entre nous, on pourrait imaginer d'utiliser l'huile d'olive par rapport à certains mets comme on le fait par rapport au vin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des vins qui se marient mieux avec tel et tel plat, on pourrait imaginer la même chose avec des huiles d'olive différentes.
Mais c'est vrai, si je vous disais que dans ma cuisine, j'ai 5 bouteilles différentes avec des qualités organoleptiques différentes, des saveurs et des arômes différents. Et pour moi, l'huile d'olive, ce n'est pas un simple condiment, c'est parfois le squelette d'une recette. Et puis, n'oublions pas son importance dans la cuisine de Méditerranée. C'est ce qu'on met en premier, soit dans le saladier, soit dans la poêle, et puis comme on est en Méditerranée, suivant, sur le mets, à la fin, on en rajoute une rasade. C'est vraiment un complément indispensable de nos cuisines. C'est que par rapport à ce que connaissaient nos anciens, maintenant, on arrive à faire des pressés d'olives, d'arbres spécifique, ce qui fait qu'on a, ce que ne faisaient pas nos anciens qui mélangeaient tous les arbres, les récoltes de tous les arbres ensemble, là on arrive finalement, suivant les variétés, à avoir des goûts d'huile différents, et c'est vraiment fantastique pour cuisiner, parce que vous savez que maintenant, on fait des glaces avec de l'huile d'olive, on fait des chocolats qui sont délicieux avec de l'huile d'olive, c'est pas obligé de mettre toujours du beurre ou de la crème, et très peu d'huile, mais bien choisie, pas des huiles fortes, grasses ou rances, permettent d'obtenir des plats d'exception. Et nos grands chefs, maintenant, les utilisent de plus en plus.
Oui, oui. D'ailleurs, même dans certains grands restaurants, on évite en Méditerranée le beurre pour faire patienter le client à l'apéritif et on lui met des petits ramequins d'huile d'olive à déguster avec du pain. Ce qui est quand même sympathique aussi.
Oui.
Ouais. Bah écoutez, en tout cas, votre livre m'a beaucoup intéressé. Il est très riche de renseignements. Votre approche qu'on a tout à l'heure décrite, historique, est très originale et apporte beaucoup par rapport à cet arbre mythique. Et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions.
Voilà.
Merci beaucoup,
je
monsieur Langer.
Merci de partager.